Acte 3. Scène 1. Arnolphe seul.
J'ai peine, je l'avoue, à demeurer en place, et de mille soucis mon esprit s'embarrasse. Pour pouvoir mettre un ordre et dedans et dehors, qui, du godelureau, rompe tous les efforts, de quel œil la traîtresse a soutenu ma vue, de tout ce qu'elle a fait, elle n'est point émue. Et bien qu'elle me mette à deux doigts du trépas, on dirait à la voir qu'elle n'y touche pas. Plus en le regardant je la voyais tranquille, plus je sentais en moi s'échauffer une bile, et ces bouillants transports dont s'enflammait mon cœur y semblaient redoubler mon amoureuse ardeur. J'étais aigri, fâché, désespéré contre elle, et cependant jamais je ne la vis si belle. Jamais ses yeux aux miens n'ont paru si perçants, jamais je n'eus pour eux des désirs si pressants, et je sens là-dedans qu'il faudra que je crève si de mon triste sort la disgrâce s'achève. Quoi, j'aurais dirigé son éducation avec tant de tendresse et de précaution, je l'aurais fait passer chez moi dès son enfance, et j'en aurais chéri la plus tendre espérance. Mon cœur aura bâti sur ses attraits naissants et cru la mitonner pour moi durant 13 ans, afin qu'un jeune fou dont elle le s'amourache me la vienne enlever jusque sous la moustache. Lorsqu'elle est avec moi mariée à demi, non, parbleu, non, parbleu, petit sot, mon ami, vous aurez beau tourner, ou j'y perdrai mes peines, ou je rendrai, ma foi, vos espérances vaines. Et de moi tout à fait, vous ne vous rirez point.
Scène 2. Un notaire, Arnolphe.
Ah, le voilà. Bonjour. Me voici tout à point pour dresser le contrat que vous souhaitez faire.
Arnolphe sans le voir.
Comment faire ?
Il le faut dans la forme ordinaire.
Arnolphe sans le voir.
À mes précautions, je veux songer de près.
Je ne passerai rien contre vos intérêts.
Arnolphe sans le voir.
Il se faut garantir de toutes les surprises.
Suffit qu'entre mes mains vos affaires soient mises. Il ne vous faudra point, de peur d'être déçu, quittancer le contrat que vous n'ayez reçu.
Arnolphe sans le voir.
J'ai peur, si je vais faire éclater quelque chose, que de cet incident par la ville on ne cause.
Eh bien, il est aisé d'empêcher cet éclat. Et l'on peut, en secret, faire votre contrat.
Arnolphe sans le voir.
Mais comment faudra-t-il qu'avec elle j'en sorte ?
Le douair se règle au bien qu'on vous apporte.
Arnolphe sans le voir.
Je l'aime, et cet amour est mon grand embarras.
On peut avantager une femme en ce cas.
Arnolphe sans le voir.
Quel traitement lui faire en pareille aventure ?
L'ordre est que le futur doit douer la future du tiers du dot qu'elle a. Mais cet ordre n'est rien, et l'on va plus avant lorsque l'on le veut bien.
Arnolphe sans le voir.
Si...
Pour le précipus, il les regarde ensemble. Je dis que le futur peut, comme bon lui semble, douer la future.
Arnolphe l'apercevant.
Il peut l'avantager, lorsqu'il l'aime beaucoup et qu'il veut l'obliger. Et cela par douaire, ou préfixe qu'on appelle, qui demeure perdu par le trépas d'Icelle, ou sans retour qui va de la dite à Césoir, ou coutumier selon les différents vouloirs, ou par donation dans le contrat formel, qu'on fait ou pur et simple, ou qu'on fait mutuel. Pourquoi hausser le dos ? Est-ce qu'on parle en fa ? Et que l'on ne sait pas les formes d'un contrat ? Qui me les apprendra ? Personne, je présume. Sais-je pas qu'étant joint, on est, par la coutume, communs en meubles, biens immeubles et conquêts, à moins que par un acte on y renonce exprès. Sais-je pas que le tiers du bien de la future entre en communauté pour...
Oui, c'est chose sûre, vous savez tout cela, mais qui vous en dit mot ?
Vous, qui me prétendez faire passer pour sot, en me haussant l'épaule et faisant la grimace.
La peste soit fait l'homme et sa chaîne de face. Adieu, c'est le moyen de vous faire finir.
Pour dresser un contrat, m'a-t-on pas fait venir ?
Oui, je vous ai mandé, mais la chose est remise, et l'on vous mandera quand l'heure sera prise. Voyez quel diable d'homme avec son entretien !
Je pense qu'il en tient. et je crois penser bien.
Scène 3. Le notaire, Alain, Georgette, Arnolphe.
M'êtes-vous pas venu quérir pour votre maître ?
Oui.
J'ignore pour qui vous le pouvez connaître, mais allez de ma part lui dire de ce pas que c'est un fou fiéfé.
Nous n'y manquerons pas.
Scène 4. Alain, Georgette, Arnolphe.
Monsieur,
approchez-vous. Vous êtes mes fidèles, mes bons, mes vrais amis, et j'en sais des nouvelles.
Le notaire ?
Laissons, c'est pour quelque autre jour. On veut, à mon honneur, jouer d'un mauvais tour, et quel affront pour vous, mes enfants, pourrait-ce être si l'on avait ôté l'honneur à votre maître ? Vous n'oseriez après paraître en nul endroit, et chacun, vous voyant, vous montrerait au doigt. Donc, puisqu'autant que moi l'affaire vous regarde, il faut de votre part faire une telle garde que ce galant ne puisse en aucune façon...
Vous nous avez tantôt montré notre leçon.
Mais à ces beaux discours, gardez bien de vous rendre.
Oh, vraiment ?
Nous savons comme il faut s'en défendre.
Mais s'il venait doucement, Alain, mon pauvre cœur, par un peu de secours soulage ma langueur...
Vous êtes un sot.
Bon.
À Georgette.
Georgette, ma mignonne, tu me parais si douce et si bonne personne.
Vous êtes un nigaud.
Bon.
À Alain.
Quel mal trouves-tu dans un dessein honnête et tout plein de vertu ?
Vous êtes un fripon.
Fort bien.
À Georgette.
Ma mort est sûre si tu ne prends pitié des peines que j'endure.
Vous êtes un benêt, un impudent.
Fort bien. Je ne suis pas un homme à vouloir rien pour rien. Je sais quand on me sert en garder la mémoire. Cependant, par avance, Alain, voilà pour boire, et voilà pour t'avoir, Georgette, un cotillon.
Ils tendent tout de la main et prennent l'argent.
Ce n'est de mes bienfaits qu'un simple échantillon. Toute la courtoisie, enfin, dont je vous presse, c'est que je puisse voir votre belle maîtresse.
Georgette, le poussant.
À d'autres.
Bon, cela.
Alain, le poussant.
Hors d'ici.
Bon.
Georgette, le poussant.
Mais tôt.
Bon, voilà, c'est assez.
Fais-je pas comme il faut ?
Est-ce de la façon que vous voulez l'entendre ?
Oui, fort bien. Hors l'argent qu'il ne fallait pas prendre.
Nous ne nous sommes pas souvenus de ce point.
Voulez-vous qu'à l'instant nous recommencions ?
Point, suffit. Rentrez tous deux.
Vous n'avez rien qu'à dire.
Non, vous dis-je, rentrez, puisque je le désire. Je vous laisse l'argent. Allez, je vous rejoins. Ayez bien l'œil à tout et secondez mes soins.
Scène 5. Arnolphe, seul.
Je veux, pour espion qui soit d'exacte vue, prendre le savetier du coin de notre rue. Dans la maison, toujours, je prétends la tenir, y faire bonne garde, et surtout en bannir vendeuses de rubans, perruquières coiffeuses, faiseuses de mouchoirs, gantières, revendeuses, tous ces gens qui sous main travaillent chaque jour à faire réussir les mystères d'amour. Enfin, j'ai vu le monde et j'en sais les finesses. Il faudra que mon homme ait de grandes adresses, et si message ou poulet de sa part peut rentrer.
Scène 6. Horace, Arnolphe.
La place m'est heureuse à vous y rencontrer. Je viens de l'échapper belle, je vous jure. Au sortir d'avec vous, sans prévoir l'aventure, seul dans son balcon j'ai vu paraître Agnès, qui des arbres prochains prenait un peu le frais. Après m'avoir fait signe, elle a su faire en sorte, descendant au jardin, de m'en ouvrir la porte. Mais à peine tous deux dans sa chambre étions-nous, qu'elle a sur les degrés entendu son jaloux. Et tout ce qu'elle a pu dans un tel accessoire, c'est de m'enfermer dans une grande armoire. Il est entré d'abord. Je ne le voyais pas, mais je le voyais marcher, sans rien dire, à grands pas. poussant de temps en temps des soupirs pitoyables et donnant quelquefois de grands coups sur les tables, frappant un petit chien qui pour lui s'émouvait et jetant brusquement les hardes qu'il trouvait. Il a même cassé, d'une main mutinée, des vases dont la belle ornait sa cheminée. Et sans doute, il faut bien qu'à ce bec cornu, du trait qu'elle a joué, quelque jour soit venu. Enfin, après 100 tours, ayant de la manière sur ce qui n'en peut mais décharger sa colère, mon jaloux, inquiet, sans dire son ennui, est sorti de la chambre, et moi de mon étui. Nous n'avons point voulu, de peur du personnage, risquer à nous tenir ensemble davantage, c'était trop hasardé, mais je dois cette nuit, dans sa chambre, un peu tard, m'introduire sans bruit. En toussant par 3 fois, je me ferai connaître, et je dois au signal voir ouvrir la fenêtre, dont avec une échelle, et secondée d'Agnès, mon amour tâchera de me gagner l'accès. Comme à mon seul ami, je veux bien vous l'apprendre. L'allégresse du cœur s'augmente à la répandre. Et goûta-t-on 100 fois un bonheur trop parfait, on n'en est pas content si quelqu'un ne le sait. Vous prendrez part, je pense, à l'heure de mes affaires. Adieu, je vais songer aux choses nécessaires.
Scène 7. Arnolf seul.
Quoi, l'astre qui s'obstine à me désespérer ne me donnera pas le temps de respirer. Coup sur coup, je verrai, par leur intelligence, de mes soins vigilants confondre la prudence, et je serai la dupe, en ma maturité, d'une jeune innocente et d'un jeune éventé. En sage philosophe, on m'a vu 20 années contempler des maris les tristes destinées et m'instruire avec soin de tous les accidents qui font dans le malheur tomber les plus prudents. Des disgrâces d'autrui profitant dans mon âme, j'ai cherché les moyens, voulant prendre une femme, de pouvoir garantir mon front de tous affronts et le tirer de pair d'avec les autres fronts. Par ce noble dessein, j'ai cru mettre en pratique tout ce que peut trouver l'humaine politique. Et comme si du sort il était arrêté que nul homme ici-bas n'en serait exempté, après l'expérience et toutes les lumières que j'ai pu m'acquérir sur de telles matières, après 20 ans et plus de méditation pour me conduire en tout avec précaution, de tant d'autres maris j'aurais quitté la trace pour me trouver après dans la même disgrâce. Ah, bourreau de destin, vous en aurez menti. De l'objet qu'on poursuit, je suis encore nanti. Si son cœur m'est volé par ce blondin funeste, j'empêcherai du moins qu'on s'empare du reste. Et cette nuit, qu'on prend pour le galant exploit, ne se passera pas si doucement qu'on croit. Semez quelque plaisir parmi tant de tristesse, que l'on me donne avis du piège qu'on me dresse, et que cet étourdi qui veut m'être fatal fasse son confident de son propre rival.
Scène 8. Chrysale, Arnolf.
Eh bien, souperons-nous avant la promenade ?
Non, je jeûne ce soir.
D'où vient cette boutade ?
De grâce, excusez-moi, j'ai quelque autre embarras.
Votre hymen résolu ne se fera-t-il pas ?
C'est trop s'inquiéter des affaires des autres.
Oh, oh, si brusquement, quels chagrins sont les vôtres ? Serait-il point compère à votre passion arrivé quelque peu de tribulation ? Je le jurerais presque à voir votre visage.
Quoi qu'il m'arrive, au moins aurais-je l'avantage de ne pas ressembler à de certaines gens qui souffrent doucement l'approche des galants.
C'est un étrange fait qu'avec tant de lumière vous vous effarouchiez toujours sur ces matières. Quand cela vous mettiez le souverain bonheur et ne conceviez point au monde d'autre honneur. Être avare, brutal, fourbe, méchant et lâche n'est rien, à votre avis, auprès de cette tâche. Et de quelque façon qu'on puisse avoir vécu, on est homme d'honneur quand on n'est point cocu. à le bien prendre au fond. Pourquoi voulez-vous croire que de ce cas fortuit dépende notre gloire, et qu'une âme bien née ait à se reprocher l'injustice d'un mal qu'on ne peut empêcher? Pourquoi voulez-vous, dis-je, en prenant une femme, qu'on soit digne à son choix de louange ou de blâme, et qu'on aille former un monstre plein d'effroi de l'affront que nous fait son manquement de foi? Mettez-vous dans l'esprit qu'on peut du cocuage se faire en galant homme une plus douce image, que des coups du hasard, aucun n'étant garant, cet accident de soi doit être indifférent, et qu'enfin tout le mal, quoique le monde glose, n'est que dans la façon de recevoir la chose. Car pour se bien conduire en ces difficultés, il y faut, comme en tout, fuir les extrémités. N'imitez pas ces gens un peu trop débonnaires qui tirent vanité de ces sortes d'affaires. De leurs femmes toujours vont, citant les galants, en font partout l'éloge et prônent leurs talents, témoignent avec eux d'étroites sympathies, sont de tous leurs cadeaux et de toutes leurs parties, et font qu'avec raison ces gens sont étonnés de voir leur hardiesse à montrer là leur nez. Ce procédé, sans doute, est tout à fait blâmable, mais l'autre extrémité n'en est pas moins condamnable. Si je n'approuve pas ces amis des galants, je ne suis pas aussi pour ces gens turbulents dont l'imprudent chagrin qui tempête et qui gronde attire au bruit qu'il fait les yeux de tout le monde, et qui, par cet éclat, semble ne pas vouloir qu'aucun puisse ignorer ce qu'ils peuvent avoir. Entre ces deux parties, il en est un honnête, où dans l'occasion l'homme prudent s'arrête. Et quand on le sait prendre, on n'a point à rougir du pis dont une femme avec nous puisse agir. Quoi qu'on en puisse dire enfin, le cocuage, sous des traits moins affreux, aisément s'envisage. Et, comme je vous dis, toute l'habileté ne va qu'à le savoir tourner du bon côté.
Après ce beau discours, toute la confrérie doit un remerciement à votre seigneurie, et quiconque voudra vous entendre parler montrera de la joie à s'y voir enrôler.
Je ne dis pas cela, car c'est ce que je blâme. Mais comme c'est le sort qui nous donne une femme, je dis que l'on doit faire ainsi qu'au jeu de dés, où, s'il ne nous vient pas ce que vous demandez, il faut jouer d'adresse, et d'une âme réduite corriger le hasard par la bonne conduite.
C'est-à-dire dormir et manger toujours bien, et se persuader que tout cela n'est rien.
Vous pensez vous moquer, mais à ne vous rien feindre dans le monde, je vois 100 choses plus à craindre et dont je me ferais un bien plus grand malheur que de cet accident qui vous fait tant de peur. Pensez-vous qu'à choisir de 2 choses prescrites, je n'aimasse pas mieux être ce que vous dites que de me voir mari de ces femmes de bien, dont la mauvaise humeur fait un procès sur rien? Ces dragons de vertu, ces honnêtes diablesses, se retranchent toujours sur leurs sages prouesses, qui pour un petit tort qu'elles ne nous font pas, prennent droit de traiter les gens de haut en bas, et veulent sur le pied de nous être fidèles que nous soyons tenus à tout endurer d'elles. Encore un coup, compère, apprenez qu'en effet le cocuage n'est que ce que l'on le fait, qu'on peut souhaiter pour certaines causes, et qu'il a ses plaisirs comme les autres choses.
Si vous êtes d'humeur à vous en contenter, quant à moi, ce n'est pas la mienne d'en tâter, et plutôt que subir une telle aventure...
Mon Dieu, ne jurez point de peur d'être parjure. Si le sort l'a réglé, vos soins sont superflus, et l'on ne prendra pas votre avis là-dessus.
Moi, je serai cocu?
Vous voilà bien malade. 1000 gens le sont bien, sans vous faire bravade, qui de 1000 cœurs de biens et de maisons ne feraient avec vous nulle comparaison.
Et moi, je n'en voudrais avec eux faire aucune. Mais cette raillerie en un mot m'importune. Brisons-la, s'il vous plaît.
Vous êtes en courroux. Nous en saurons la cause. Adieu. Souvenez-vous, quoique sur ce sujet votre honneur vous inspire, que c'est être à demi ce que l'on vient de dire que de vouloir jurer qu'on ne le sera pas.
Moi, je le jure encore et je vais de ce pas, contre cet accident, trouver un bon remède.
Scène 9. Arnolphe, Alain, Georgette.
Mes amis, c'est ici que j'implore votre aide. Je suis édifié de votre affection, mais il faut qu'elle éclate en cette occasion. Et si vous m'y servez selon ma confiance, vous êtes assuré de votre récompense. L'homme que vous savez, n'en faites point de bruit, veut, comme je l'ai su, m'attraper cette nuit dans la chambre d'Agnès, entrée par escalade. mais il lui faut, nous trois, dresser une embuscade. Je veux que vous preniez chacun un bon bâton, et quand il sera prêt du dernier échelon, car dans le temps qu'il faut, j'ouvrirai la fenêtre, que tous deux, à l'envi, vous me chargiez ce traître, mais d'un air dont son dos garde le souvenir, et qui lui puisse apprendre à n'y plus revenir. Sans me nommer pourtant en aucune manière, ni faire aucun semblant que je serai derrière. Auriez-vous bien l'esprit de servir mon courroux ?
S'il ne tient qu'à frapper, monsieur, tout est à nous. Vous verrez quand je bats si j'y vais de main morte.
La mienne, quoique aux yeux elle n'en soit pas si forte, n'en quitte pas sa part à le bien étriller.
Rentrez donc, et surtout gardez de babiller. Voilà pour le prochain une leçon utile, et si tous les maris qui sont en cette ville de leurs femmes ainsi recevraient le galant, le nombre des cocus ne serait pas si grand.